livre de l'Ancien Testament qui se trouve un peu avant le livre des Psaumes, le livre de Job, au livre de Néhémie, au chapitre 8e. Néhémie, au chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes, et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Et il y lut devant la place, qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Et Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion. Et Matitia et Shema, et Anaïa et Uri, et Ilkija et Maseya se tenaient à côté de lui, à sa droite, et à sa gauche Pedaïa et Misaël, et Malkija et Assurn, et Asburdana, Zacharie et Mesulam. Et Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen », en élevant les mains, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et Jeshua et Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shaltaï, Odija, Maseya, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaya, et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple se tenait à sa place. Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Et Néhémie, qui était le Tirshatha, Esdras, le sacrificateur, le scribe, et les Lévites qui faisaient comprendre au peuple ce qu'on lisait, dirent à tout le peuple, « Ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu. » Ne menez pas deuil et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et Néhémie leur dit, allez, mangez de ce qui est gras, buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur, et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel et votre force. Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire et pour envoyer des portions et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Jusqu'ici. Était rentré de la terre de Babylonie en Palestine, à Jérusalem. Un certain nombre d'enfants d'Israël avaient profité de la liberté et de l'approbation que donnait le roi Cyrus, le grand roi des Perses, et ils étaient montés à Jérusalem. Si nous lisons le livre d'Esdras, si nous lisons le début du livre de Néhémie jusqu'à notre chapitre, nous voyons qu'un certain ordre politique et social a été rétabli dans la terre de Palestine. C'est ce que nous dit le dernier verset du chapitre 7e. Et quand on arriva à la septième, au septième mois. Quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Et maintenant, nous les voyons se rassembler à Jérusalem. C'est un grand jour que ce jour-là, le premier jour du septième mois. Ils se rassemblent à Jérusalem, et il est dit ici, comme un seul homme, à la place des eaux, à la porte, sur la place qui est devant la porte des eaux, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Quel jour que ce jour-là, chers amis. Dans le sens de ce qui nous a été présenté hier soir, dans le sens des divers commencements dont nous parle la parole de Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas dire que nous avons là comme un nouveau commencement? Non pas peut-être dans le sens de ces grands commencements du livre de la Genèse, de l'évangile selon Jean, ou de la première épître de Jean, ou encore du chapitre 21e du livre de l'Apocalypse, mais un commencement quand même dans l'histoire du peuple terrestre de Dieu. C'est un commencement, c'est comme un recommencement dans les voies de Dieu à l'égard de ce peuple. Ce peuple est là, qui se retrouve à Jérusalem, se réunissant comme un seul homme. Une seule âme, une seule pensée les dirige. Ils sont là à Jérusalem. Pourquoi, chers amis? Pour se voir, pour avoir le plaisir de se revoir, certainement. C'est une raison qui peut se comprendre, qui peut soutenir, mais qu'est somme toute une raison secondaire. Quelle était donc la raison qui les amenait ainsi, comme un seul homme, à Jérusalem? C'était ce besoin d'entendre la parole de Dieu, d'entendre cette parole que Dieu avait donnée à son serviteur Moïse, que lui-même devait communiquer au peuple. Ce peuple avait faim et avait soif d'entendre la loi de Dieu communiquée à son serviteur Moïse. Nous l'avons demandé à Dieu tout à l'heure dans notre prière, que Dieu crée dans nos âmes ce besoin, cette faim et cette soif d'entendre sa parole. Cela est important, chers amis. Cela est primordial, cela est nécessaire. Il importe que nous ayons des besoins. Que faisons-nous ici ce soir si nous n'avons pas de besoin? Pourquoi sommes-nous venus ici ce soir? Comme dit le prophète Jérémie au chapitre 8 de son livre, pourquoi êtes-vous ici assis? À nous de répondre. Si nous sommes venus parce que nous avons des besoins, nous avons bien fait de venir. Si nous sommes venus parce que nous avons faim et soif d'entendre la parole de Dieu, nous avons bien fait. Venons, revenons, revenons toujours pour entendre la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas venus, ayant des besoins, ayant cette faim et cette soif d'entendre la parole de Dieu, nous pouvons nous demander, en fait, pourquoi nous sommes ici ce soir. Ils se sont rassemblés comme un seul homme, et cela nous fait penser, et encore dans le sens de ce qui nous a été présenté hier soir, à ce commencement que nous avons dans le livre des Actes, ce qui était au commencement. Le livre des Actes nous parle de l'instauration du christianisme sur la terre. Nous assistons à de ces pures manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y a trois tableaux au début du livre des Actes, au chapitre 2, au chapitre 4 et au chapitre 5, tableaux que l'on a appelés les pures manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que dans ces tableaux-là, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui agit. Il n'y a absolument rien de la chair. Il n'y a absolument rien de l'homme naturel. C'est l'Esprit de Dieu qui agit et qui agit pleinement. Il est dit en effet que toute la multitude, dans le deuxième tableau, à la fin du chapitre 4 des Actes, que toute la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'était un commencement, un grand commencement. C'était le commencement du christianisme sur la terre. Les choses ont changé depuis ces jours-là. L'Esprit de Dieu n'a pas du tout changé. La puissance du Saint-Esprit aujourd'hui est aussi nette, est aussi évidente, est aussi réelle qu'elle l'était au matin du christianisme. Mais c'est nous qui avons changé. C'est nous qui sommes caractérisés par une faiblesse grandissante, par ce déclin. C'est nous qui, par notre faiblesse, sommes des handicaps à l'action directe et pleine de l'Esprit de Dieu. Une seule âme, un seul cœur, une seule pensée, voilà ce que nous voyons déjà chez ces hommes d'Israël venus à Jérusalem. Ils sont venus comme un seul homme. Ils étaient déjà venus une fois comme un seul homme. Au chapitre 3 du livre d'Esdras, quand il a été question de bâtir, d'ériger l'autel de Dieu, il a été érigé sur son emplacement. Il n'y a pas deux emplacements pour l'autel de Dieu, il n'y en a qu'un seul. Eh bien, des événements tragiques s'étaient déroulés, il demeurait cet emplacement de l'autel de Dieu, et ils sont venus, les enfants d'Israël, comme un seul âme, dans la pensée d'ériger cet autel de Dieu. Ils l'ont établi sur son emplacement. Comme un seul âme, dit Esdras 3. Ici, en Néhémie 8, nous retrouverons un de ces rassemblements totaux, tous, une seule âme, un seul cœur, sont là à Jérusalem. Non plus dans la pensée de rendre à Dieu le culte qui lui revient, ce qui est exprimé par l'autel, mais nous le répétons dans le but d'entendre la parole de Dieu. Ils avaient faim, ils avaient soif d'entendre cette parole, et la suite du chapitre nous le montre à l'évidence. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Personne ne les a influencés, ni Néhémie, ni Esdras, personne n'est venu leur dire, dis donc, vous pourriez quand même, peut-être, une fois, penser à la loi de l'Éternel. Spontanément, ils ont cette pensée à cœur, ils ont ce désir brûlant d'entendre la parole. Il nous est dit ici donc, ils dirent à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. C'est eux-mêmes, ces hommes, ces femmes, ceux qui avaient la capacité de comprendre. Ce sont eux qui spontanément demandent à Esdras d'apporter le livre de la loi de l'Éternel. Ils veulent l'entendre, ils veulent le connaître, ils veulent savoir quels sont les statuts et les ordonnances de leur Dieu. Ils viennent vers Esdras, ils disent à Esdras, apporte le livre de la loi, nous désirons l'entendre. D'Esdras, il n'a plus été parlé jusqu'au chapitre 8. On peut se demander ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aurait oublié Esdras, oublié son ministère, peut-être même probablement. On a oublié son ministère, il n'en est plus question jusqu'ici. Et voici qu'il réapparaît. Dès qu'il est question de la loi de l'Éternel, dès qu'il est question de la parole de Dieu, alors il est question d'Esdras. Esdras était un homme de Dieu. C'était un scribe qui était versé dans la loi du Dieu d'Israël. Le chapitre 7e de son livre nous dit ce témoignage concernant Esdras. Au chapitre 7 du livre d'Esdras, il nous est dit ceci, verset 6. Cet Esdras monta à Babylone. Il était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 10e. Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la faire, et enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Un beau témoignage qui est rendu à ce conducteur, à cet homme de Dieu. Il avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel. Voilà ce qui importe, chers amis, que notre cœur soit engagé. Comme en certaines circonstances, il importe d'arrêter dans son cœur de ne pas faire telle ou telle chose. D'un autre côté, il importe de disposer son cœur à rechercher la loi de l'Éternel. C'était un scribe. Il était versé dans la loi de l'Éternel. Il était particulièrement qualifié pour parler de la loi de l'Éternel, de ce qui correspondait en ce temps-là à la parole vivante et permanente de notre Dieu, que nous avons le bonheur en toute liberté d'ouvrir, de lire, et dans laquelle nous avons le privilège de méditer. Ce sont eux qui ont demandé cela à Esdras. Nous le répétons spontanément, sans aucune influence, sans qu'il y ait eu un homme particulièrement pieux qui soit venu les encourager à demander le livre de la loi à Esdras. Mais spontanément, eux-mêmes, toute cette foule, ont demandé à Esdras d'apporter le livre de la loi de l'Éternel. Et quand est-ce que ça a eu lieu, ce grand rassemblement? C'était un jour particulier dans l'année juive. C'était pas n'importe quel jour. C'était le premier jour du septième mois de l'année juive. Qu'est-ce donc que ce premier jour du septième mois? Si nous lisons le chapitre 23e du livre du Lévitique, nous voyons que c'est une fête, une sainte convocation, une sainte assignation adressée au peuple d'Israël. Il y en avait sept. La fête de ce premier jour-là, du septième mois, était la cinquième de ces fêtes, et elle est appelée en Lévitique 23 un mémorial de jubilation. C'était une fête en laquelle on réjouissait son âme. Au chapitre 29e du livre des Nombres, cette fête est appelée la fête du son éclatant des trompettes. La trompette de Dieu, ou plus exactement les deux trompettes d'argent battu, dont le chapitre 10 du livre des Nombres nous entretient, résonnait. On entendait le son éclatant de ces trompettes, et on était invité, entre autres buts, on était invité à se réjouir. Dans le psaume 81, alors, cette fête est appelée la fête de la nouvelle lune. Il y a là certainement un langage symbolique en rapport avec un renouveau dans la vie d'Israël. Prophétiquement, cette fête du premier jour du septième mois représente la reprise des relations de Dieu avec son peuple terrestre. Comme il est dit à la fin d'Ésaïe 27, la grande trompette de Dieu retentira, et les élus du peuple terrestre de Dieu seront rassemblés dans leur terre. Ce sera certainement une joie pour eux, certainement, et c'est ce que représente ce premier jour du septième mois, la fête du son éclatant des trompettes. Nous lisons un ou deux versets dans ce psaume 81 qui nous donne bien l'illustration de cette fête en Israël, sainte convocation en laquelle on avait à se réjouir, et comme il est dit dans l'alinéa suivant, non pas à affliger son âme et à pleurer, ce qui aura lieu plus tard, mais pour le moment, c'était le jour de la joie. Psaume 81, nous lisons ceci. Chantez joyeusement à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez le cantique et faites résonner le tambourin, la harpe agréable avec le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au temps fixé, au jour de notre fête, car c'est un statut pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Cette fête était donc la fête de la nouvelle lune, image d'un renouveau dans la vie nationale du peuple terrestre de Dieu. C'était donc un jour de joie. C'était un mémorial de jubilation. C'était un jour dans lequel on avait à se réjouir. Le chrétien n'a pas besoin d'attendre un tel jour ou la réalisation prophétique d'un tel jour. Le chrétien connaît déjà cette jubilation. Il connaît déjà cette joie. La connaissons-nous tous? Pouvons-nous tous chanter avec le cantique « Je la connais, cette joie excellente que ton esprit, Jésus, met dans un cœur. » La connaissons-nous, cette joie excellente? Nous aimerions que ce soit la part de chacun. Nous ne voudrions pas fatiguer nos jeunes en leur adressant incessamment des appels, mais nous aimerions quand même leur dire que ce serait le désir, que c'est le désir ardent de notre cœur, que tous, chers jeunes gens, vous connaissiez cette joie excellente que l'Esprit de Jésus met dans un cœur, et que vous puissiez en sorte réaliser quelque chose de la signification de ce premier jour du septième mois, un jour de joie, un jour de jubilation, un jour d'allégresse, un jour de grande réjouissance. Je la connais, cette joie excellente que ton esprit Jésus met dans ton cœur. Me dirons-nous tous ce soir, au sortir de cette réunion, pourrons-nous dire tous que vraiment nous la connaissons, cette joie excellente que l'Esprit de Jésus met dans un cœur. Dieu veuille qu'il en soit ainsi. C'est pas pour rien que Dieu permet un tel rassemblement, un grand rassemblement, comme il y en a peu dans toutes nos régions. Ce n'est pas pour rien. Et Dieu veut que sa parole soit entendue. Dieu veut que nous soyons appelés à lui, que nous soyons appelés au Seigneur, que le désir de Dieu soit exprimé une fois de plus, que nous connaissions tous cette joie excellente que l'Esprit de Jésus met dans un cœur. La lecture de la loi va donc avoir lieu. Nous avons lu dans les versets suivants ceci, que en ce jour du septième mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Les hommes étaient là, les femmes étaient là, et puis il y avait encore une autre catégorie de personnes. Pensons-nous peut-être que c'était des gens particulièrement intelligents, particulièrement capables de comprendre les statuts de Dieu? Non. Dans ce passage, ceux qui avaient la capacité de comprendre étaient des jeunes gens. C'était plutôt des adolescents. Ils avaient quitté le stade de l'enfance, ils étaient devenus des jeunes gens. Au début, disons, dans leur première jeunesse, ils étaient venus en état de comprendre. Ils étaient arrivés à l'âge où l'on comprend les choses. C'était ceux-là qui étaient capables de comprendre, c'est-à-dire ces enfants qui n'étaient plus des enfants, qui étaient devenus des adolescents et qui étaient maintenant en âge de comprendre. Et c'est devant cette grande foule, des hommes, des femmes, des jeunes, devant cette grande foule que la parole de la loi est lue. Et il est dit ceci, que pendant que Esdras y lut, devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Quelle réunion, chers amis. On a lu, Esdras y a lu, depuis l'aube jusqu'à midi, une réunion de 6 heures de temps, de 6 heures durant lesquelles le livre de la loi a été lu. Et nous n'avons aucun signe de lassitude, de fatigabilité dans le récit qui nous en est donné. Tout le monde est là, prêtant l'oreille au livre de la loi. Pendant 6 heures de temps, on écoute ce que la loi de Dieu a à dire. Il n'y a pas un enseignement pour nous, chers amis, qui nous trouvons si facilement fatigués après 1 heure d'étude de la parole de Dieu. Et si cela se prolonge, il y aura peut-être quelques petites plaintes par-ci par-là, parce que c'est trop long. Ah, cela nous montre combien cela est un grand enseignement pour nous. Quand nous voyons que depuis l'aube jusqu'à midi, on peut bien penser, pendant 6 heures de temps, le livre de la loi est lu et le peuple est là, prêtant l'oreille à ce qu'on lit. Quelle attention! Et nous devrions toujours avoir une attention semblable quand le livre de Dieu est lu. C'est peut-être un peu différent quand il est question de méditation de la parole de Dieu, d'étude de la parole de Dieu, de commentaires énoncés à propos de la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de la lecture de la parole de Dieu, mais combien nous devrions être attentifs et combien nous devrions prendre garde pour ceux qui sont appelés au ministère de la parole de Dieu, combien nous devrions prendre garde à lire et à lire distinctement la parole de Dieu. Il en est parlé un petit peu plus loin, nous aurons l'occasion de revenir sur cette pensée. Tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite. Et il est entouré de compagnons, compagnons d'œuvre que nous pourrions dire. Nous remarquons que là, il est entouré d'un côté de 6 personnes et de l'autre côté de 7 personnes. Peut-être y a-t-il aussi là un enseignement. Il n'y a pas 6 personnes d'un côté, 6 personnes de l'autre, et Esdras occupant la place centrale. Il ne se met pas au centre, il n'est pas au centre. Il y en a 6 d'un côté, il y en a 7 de l'autre. Et alors, sur l'estrade, il est là, lisant le livre de la loi, qui est surélevé, qui est mis en évidence. On voit tout le respect qu'Esdras avait pour le livre de la loi. Le livre de la loi est vu par chacun, il est surélevé et l'on peut prêter ainsi, on peut le voir et prêter une attention d'autant plus marquée, prêter une attention d'autant plus vive à ce qui est lu. S'ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Ne sommes-nous pas frappés de l'attitude respectueuse des auditeurs en présence du livre de la loi qui est surélevé, en présence de la lecture du livre de la loi, on se lève, on se tient debout, marque incontestable d'un profond respect en présence de la parole de Dieu qui est lue. Quand le Seigneur Jésus, au début de son ministère, dans la synagogue à Nazareth, a entendu que l'on lisait la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et en particulier ce passage du prophète Jérémie, annonçant les raisons de la venue du Seigneur sur la terre, Ésaïe 61, il nous est dit du Seigneur qu'il s'est levé. Toujours est-il, s'il n'est pas dit qu'il s'est levé, il est dit que le Seigneur s'est assis une fois que le livre de la loi, que cette portion du prophète Ésaïe a été lue. Il s'est assis, donc il était debout. Et puis quand les docteurs de la loi se mettent à parler, il n'est pas dit que le Seigneur s'est levé. Il n'est pas dit que le Seigneur s'est levé, il est resté assis. Pourquoi? Parce qu'il était le Seigneur de gloire et que les docteurs de la loi lui étaient fort inférieurs. Il était celui dont le psaume 119 parle, celui qui avait plus de sens que tous les anciens de son peuple. J'ai plus de sens que ceux qui m'enseignent, plus d'intelligence que les anciens de mon peuple. Ces versets 99 et 100 du psaume 119 nous parlent du Seigneur Jésus. C'était le Seigneur de gloire. Il n'avait pas à se lever devant les docteurs de la loi qui parlaient. Nous devons être respectueux en présence de la parole de Dieu, chers amis. On le répétera jamais trop. La parole de Dieu n'est pas un livre comme un autre. C'est le livre des livres que nous pensions d'un livre, d'un grand homme d'esprit, d'un grand homme de lettres, que nous pensions ce que nous voulons. C'est tout autre chose, c'est un livre des hommes. Quand il s'agit de la parole de Dieu, de la Bible, du livre des livres, du livre de Dieu, nous avons à avoir toujours une attitude profondément respectueuse. Nos conducteurs d'autrefois, il n'y avait pas besoin d'être spécialement doués pour cela. Nous nous souvenons encore de nos ancêtres, les uns et les autres. Puissions-nous réaliser quelque chose de cette attitude respectueuse du peuple à l'égard du livre de la loi. Mêle le grand Dieu et à lui d'une telle bénédiction, à lui d'une telle adoration, tout le peuple alors dit Amen, Amen, et se prosterne, on se jette sur sa face, exprimant par là ce sentiment d'une indignité profonde. On se sent indigne, on se sent très faible, en présence de ce que la loi demande, en présence de ce que la parole de Dieu aujourd'hui nous présente. Nous sommes de pauvres êtres. Nous n'avons qu'une chose à faire, dans le sentiment de notre indignité profonde, nous jeter sur notre face. Attitude très belle que nous avons besoin d'imiter, chers amis. Nous avons besoin de cette attitude respectueuse en présence de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'autre part de réaliser ce sentiment profond de notre indignité en présence de ce que la parole de Dieu nous dit. Esdras est sur une estrade. Il y avait déjà eu une scène un peu semblable avant la déportation à Babylone. Le roi Josias aussi est monté sur une estrade. Et le livre de la loi qui avait été oublié, qui avait été perdu, ce livre de la loi a été retrouvé. Le sacrificateur, il Hilkija, un jour, dans le temple, au fond du temple, quelque part, a trouvé un livre. J'ai trouvé le livre de la loi. Aussitôt, ce livre a été remis à Josias. Josias a demandé qu'on en fît lecture du haut d'une estrade. Quant à lui-même, il a été saisi d'un sentiment d'humiliation profonde. Il a pleuré. Il a déchiré ses vêtements en voyant cette loi, en entendant ce que la loi exigeait, cette loi que l'on avait méprisée depuis des centaines d'années. Il est dit encore que il y avait un certain nombre de Lévites, au verset 7e, qui faisaient comprendre la loi au peuple. Le peuple se tenait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Les Lévites n'avaient plus besoin de s'occuper des objets du tabernacle ou du temple. Il y a un passage, sauf erreur, dans le 23e chapitre du premier livre des Chroniques qui nous dit que les Lévites n'avaient plus à porter les objets du temple. Quel était donc leur rôle? Le rôle, c'était de lire dans le livre de la loi. Le rôle, c'était d'expliquer les ordonnances du livre de la loi. C'était en fait la réalisation de ce que Moïse, homme de Dieu, avait annoncé avant sa mort à l'égard des fils de Lévi. Peut-être que sans prolonger outre mesure, nous pouvons lire ce passage de la fin du Deutéronome. Au chapitre 33e, dans la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort, nous avons ce passage. Deutéronome 33, au verset d'abord 9e, il est dit 2, « Ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance. » Et au verset 10, ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Et cela se réalise ici. Nous avons ces Lévites qui tout d'abord lisent distinctement dans le livre de la loi. Enseignement aussi très important pour nous, chers amis. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons la lire clairement. Nous devons la lire distinctement. C'est le moindre respect que nous pouvons réaliser à l'endroit de la parole de Dieu. On a pu dire d'un jeune frère qui lisait d'une manière remarquable la parole de Dieu, on a pu dire que quand il présentait la parole, la seule lecture de la parole de Dieu était déjà une méditation en soi. Et ensuite, il y avait une brève méditation sur ce qui avait été lu. Mais ce jeune frère montait à l'évidence que ce qui avait de l'importance, c'était pas ce qu'il allait dire, mais ce qu'il lisait, la parole de Dieu. Nous avons à lire la parole distinctement. Il est pénible de voir des serviteurs de Dieu lisant la parole de Dieu rapidement, comme s'ils étaient pressés que cette lecture s'achève, comme s'ils étaient pressés de commencer eux-mêmes à parler, comme s'ils donnaient plus d'importance aux commentaires qu'ils pouvaient exprimer au sujet de la parole lue. Non, chers amis, ce qui importe, c'est la parole de Dieu. Ce qui importe d'abord, c'est la lecture distincte de cette parole. Et ensuite alors, Dieu voudra bien nous donner quelques pensées au sujet de la parole lue. Lisons-la toujours au sein de l'Assemblée, quand il s'agit d'une lecture publique. Lisons-la toujours distinctement, clairement. L'apôtre Paul, bien plus tard, dira à Timothée, attache-toi à la lecture. À la fin du chapitre 4 de la première épître à Timothée, attache-toi à la lecture, et ensuite à l'exhortation, et ensuite à l'enseignement. Attache-toi à la lecture d'abord. Il ne s'agit pas là de la lecture de la parole, la lecture personnelle, la lecture quotidienne. Il s'agit de la lecture en public, en présence de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as à faire, Timothée? T'attacher d'abord à la lecture de cette parole. Lis dans l'Assemblée cette parole. En présence d'une assistance, lis. Attache-toi à la lecture de cette parole. Et ensuite, donne la parole d'exhortation qui te sera donnée. Et ensuite, donne la parole d'enseignement que tu auras à exposer. Mais d'abord, la lecture de la parole. Attache-toi à la lecture. Puissions-nous y penser, chers frères, à l'égard du ministère de la parole. Il y a bien des frères ici, sur le plateau, qui sont appelés à présenter la parole dans une assemblée ou dans une autre. Qu'ils pensent à cela, qu'ils réfléchissent sérieusement à cela. Ce qui compte tout d'abord, c'est la lecture claire et distincte de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Et ensuite, exhorter, et ensuite, enseigner. Nous arrivons à la fin de notre méditation. Il nous est dit que ensuite, après avoir lu, les Lévites donnaient le sens et faisaient comprendre lorsque l'on lisait. Ils donnaient le sens, on ne pouvait pas tout comprendre, surtout que là, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient plus du tout ce que c'était que la loi de l'Éternel. Ils désiraient ardemment la connaître. Il était nécessaire qu'on leur expliquât ce qui était lu. Alors on en donnait le sens, on donnait une interprétation, peut-être encore que l'interprétation donnée n'était pas comprise, qu'elle n'était pas saisie par chacun. Alors les Lévites étaient encore là pour faire comprendre. Cela est très important, cela est très important. Combien de fois il y a un frère, une sœur, un jeune qui viennent à nous et qui nous demandent une explication, qui nous demande le sens d'une pensée de Dieu, une interprétation. Sommes-nous là, chers amis, à même de répondre au désir de ces personnes, de ces croyants qui désirent comprendre quelque chose de la parole de Dieu? Puissions-nous donner le sens de ce qui nous est demandé de cette parole? Puissions-nous le faire comprendre à ceux qui interrogent? En fait, c'est là le sens d'une réunion d'études, le sens d'une réunion d'études comme celle que nous avons actuellement maintenant sur le plateau. Le sens de ces réunions d'études, c'est évidemment l'exposé de la pensée de Dieu, l'enseignement de la pensée de Dieu dans une portion donnée, portion proposée par l'Assemblée locale. Et ensuite, alors, il y a des pensées qui ne sont pas très bien comprises. Il y a la possibilité d'interroger. Et alors, réponse est donnée. Il donnait le sens. Il faisait comprendre ce qu'on lisait. Quand on a entendu la loi, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens sont pris d'un sentiment profond de contrition. Il nous est dit que on pleurait. On doit dire à trois reprises, ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu. Ne mettez pas d'œil, ne pleurez pas, taisez-vous, ne vous affligez pas, taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. Trois fois, il, Néhémie, Esdras doivent dire au peuple de ne pas pleurer. C'est la parole qui est lue. Ils sont profondément touchés et l'on comprend très bien ces larmes versées. Ils sont la prise d'un sentiment d'indignité et en même temps d'un sentiment d'humiliation qu'ils se mettent à pleurer. Ils affligent leurs âmes. Ils sont littéralement effondrés en eux-mêmes en pensant à ce qu'ils sont en présence de ce que la loi de l'Éternel demande. Mais c'était le premier jour du septième mois. C'était le jour de la jubilation, de la joie, de l'allégresse. C'était un jour saint, c'est-à-dire un jour mis à part par Dieu, comme nous l'avons lu au psaume 81, c'était un statut qui a été établi par Dieu lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. C'était un jour saint, c'était un jour de joie, c'était pas le jour où on pleurait, le jour où l'on pleurait viendrait. Ce qui représente le grand jour à venir des propitiations ou des expiations, la grande tribulation, cela se réalisera dans ce livre de Néhémie. Mais ce jour-là, premier jour du septième mois, était un jour mis à part par Dieu pour la joie, la jubilation, pour l'allégresse. On n'avait pas à pleurer. D'où cette exhortation que nous avons trois fois, taisez-vous. C'est-à-dire, ne pleurez pas, ne versez pas des larmes, c'est pas le jour pour cela. C'est un jour où on doit se réjouir. Et nous avons alors cette parole remarquable, ce jour, au verset, à la fin du verset 10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. La joie du Seigneur, chers amis chrétiens, est notre force. Le fait de se réjouir d'un Seigneur est la cause d'une force particulière. L'apôtre Paul nous enseigne à cet égard, et de quelle manière? On peut dire que toute une épître du Saint-Livre est là, qui nous est donnée pour nous parler de cette joie, dans les circonstances les plus éprouvantes. Et dans cet épître aux Philippiens, le livre de l'expérience bienheureuse, il nous est dit dans chacun des quatre chapitres, une fois ou plusieurs fois, de se réjouir. Il nous est parlé de la joie jusqu'au chapitre quatrième. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Une fois encore, je vous le dirai, réjouissez-vous. Il y a dans le fait de se réjouir dans le Seigneur une source particulière de force. On est fortifié par la joie que l'on a dans le Seigneur. La joie de l'Éternel, la joie pour l'Éternel, la joie que l'Éternel procure à un cœur, cette joie est, passera, elle est votre force. Il y a beaucoup de raisons de découragement, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui nous font de la peine. Nous pourrions nous décourager. Nous pourrions commencer de perdre notre élan dans la persévérance à laquelle nous sommes exhortés. Ce soir se fait entendre cette parole. La joie de l'Éternel est votre force. Et ce peuple, fort bien disposé, écoute ce que Néhémie, Esdras, Zise. Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger, et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles que on leur avait fait connaître. Que le résultat merveilleux de ce ministère d'Esdras et des Lévites, ils lisaient distinctement, ils donnaient le sens de ce qu'on lisait, ils faisaient comprendre ce qu'on lisait, et le résultat est ceci, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Ça devait être un grand encouragement pour les Lévites, pour Esdras, pour Néhémie lui-même. Encore une petite pensée, il est parlé de Néhémie et d'Esdras. On a dit tout à l'heure qu'il n'est plus parlé d'Esdras jusqu'au chapitre 8, et du moment qu'il est parlé du ministère de la loi de l'Éternel, voici Esdras, le scribe versé dans la loi de l'Éternel qui réapparaît. C'est très beau de voir combien alors qu'il nous est tant parlé de Néhémie dans les chapitres précédents, Néhémie, sans disparaître totalement, occupe véritablement une place à l'arrière-fond de la scène. C'est plus Néhémie qui est au premier plan. Néhémie était pourtant le Tirshatha, c'est-à-dire le titre donné à un gouverneur dans l'Empire médo-perse. C'était le Tirshatha, c'était le gouverneur en Israël, c'était lui qui était à la tête de ce peuple. Eh bien, lorsqu'Esdras apparaît, du moment qu'il est question du ministère de la loi, alors Néhémie se retire, Néhémie s'efface, et la place est donnée à Esdras. Cela est très beau. Il n'y a pas de sentiment de jalousie, il n'y a pas de sentiment de rivalité. On sait se retirer, s'effacer quand il le faut. Quel enseignement pour tout frère qui présente la parole, d'une façon toute particulière pour les serviteurs de Dieu. Quel enseignement. Nous pouvons être atteints, nous pouvons manifester des sentiments d'envie, de jalousie, de rivalité. Toutes ces choses sont des manifestations charnelles, elles ne sont pas selon Dieu. Savoir reconnaître dans son frère le don que Dieu lui a confié, savoir quant à soi-même, manifester ce don, le réaliser au moment voulu quand Dieu veut qu'il soit manifesté, chacun demeurant bien à sa place, chacun se réjouissant du don que le Seigneur a confié à l'autre, voilà ce qui est beau. Voilà ce qui est beau. Et voilà ce qui a certainement sur l'ensemble une influence décisive. Des frères présentant la parole, bien unis ensemble, et heureux de connaître chacun le don qui est dans l'autre. Esdras et Néhémie nous sont en exemple à cet égard. Ainsi donc, on a réalisé le sens de ce premier jour du septième mois. On s'est réjoui, même on a fait de grandes réjouissances. On a écouté les encouragements des Lévites qui ont dit « Allez, mangez, buvez et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » Nous aussi, chers amis, nous avons à manger, nous avons à nous nourrir de la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons à manger de ce qui est appelé dans l'Évangile selon Jean le pain de Dieu, le pain vivant, le pain descendu du ciel. Nous avons à nous nourrir, pas seulement en vue de notre conversion, mais tout au long de notre existence, nous avons à nous nourrir du céleste pain. Nous avons aussi à boire au fleuve des délices de Dieu. Cette parole se trouve au psaume 36e, « Tu les abreuveras au fleuve de tes délices ». Qu'est-ce que cela peut bien dire, chers amis? Qu'est-ce que cela représente? Le fleuve de tes délices. Il est incontestable que le fleuve de tes délices représente une personne. Et celui en qui Dieu a trouvé ses délices et trouve toujours ses délices, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est de lui dont nous devons nous abreuver. C'est à lui, la source de toute bénédiction, que nous devons aller pour nous abreuver, pour boire, comme il est dit dans notre chapitre. Tu les abreuveras au fleuve de tes délices. Et le fleuve de tes délices, c'est le Seigneur lui-même, celui à propos duquel le Père a dit à deux reprises, en lui, j'ai trouvé mon plaisir. Il n'est pas nécessaire, chers amis, de dire « En lui, j'ai trouvé tout mon plaisir ». C'est superflu de dire « En lui, j'ai trouvé tout mon plaisir ». Quand Dieu a dit « En lui, j'ai trouvé mon plaisir », il a tout dit. Il n'y a pas besoin d'ajouter un superlatif ou quelque chose de semblable. Il n'y a pas besoin de dire « En lui, j'ai trouvé tout mon plaisir ». Même en disant « Tout mon plaisir », il y a comme une espèce de limitation que nous faisons au délice que Dieu trouve dans la personne de son Fils bien-aimé. Quand Dieu dit « En lui, j'ai trouvé mon plaisir », Dieu a tout dit, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Et puis, préparer des portions, manger, nourrir son âme, boire, s'abreuver au fleuve des délices de Dieu, c'est-à-dire nous nourrir, nous abreuver à, ce qui est à celui qui est la source de toute bénédiction, notre Seigneur. Nous avons à penser aux autres, il y en a d'autres, peut-être qui n'ont pas la même promptitude à aller se nourrir, à nourrir leur âme, à aller s'abreuver à la source de la vie, à la source de toute bénédiction. Nous avons alors envoyé quelque chose de la bénédiction que nous-mêmes nous recevons par le moyen du ministère de la parole. Nous avons, nous aussi, envoyé des portions à ceux qu'on vient de préparer. C'était l'expression active, expression visible, de la joie qu'il y avait dans leur cœur. Ils étaient heureux de préparer des présents, des cadeaux, de préparer des portions pour aller les porter à d'autres qui n'avaient rien de préparé. Au jour d'Esther, nous voyons également cette même pensée. Lorsque la délivrance a sonné pour le peuple juif dans les confins de l'immense empire médo-perse, on les voit pour exprimer cette joie et cette allégresse qui était celle des Juifs, on les voit préparer également des portions et les envoyer à d'autres qui n'en avaient pas. Et ce jour-là, ce jour de fête, a pris un nom particulier, le nom de Pur, c'était les jours des Purim, c'est-à-dire les jours où on envoyait des portions à d'autres, à ceux qui n'en avaient pas. Dans le livre de l'Apocalypse, alors, il nous a parlé de la manifestation également d'une joie, mais d'une sombre joie, d'une cynique joie. Quand on a mis à mort les deux témoins du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, il est dit que la terre se réjouit. Ceux qui habitent sur la terre se réjouissent de ce qu'enfin les deux témoins de Dieu ont été mis à mort. Et il est dit de ces âmes qui se réjouissent, qu'ils envoient des portions, ils s'envoient des portions les uns aux autres. Mais c'était là l'expression d'une joie profondément mauvaise, d'une joie cynique, de cette joie que l'on éprouvait, parce que ceux dont on dit qu'ils tourmentaient la terre habitée entière avaient enfin disparu. Les deux témoins de Dieu ont été mis à mort. On se réjouit et on manifeste cette joie en s'envoyant des portions les uns les autres. Lisons dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, nous trouvons ce passage. Ainsi donc, les enfants d'Israël, en ce premier jour du septième mois, ont compris la valeur de ce jour. Ils ont compris la signification de ce jour. Et alors, plutôt que de pleurer, mais Dieu a compris les larmes qu'ils ont versées. Ils ne sont pas jugés pour cela. Dieu l'a compris. Mais ils se réjouissent, ils font même de grandes réjouissances parce qu'ils avaient compris ce qu'on leur avait lu. Que le Seigneur, chers amis à tous, nous donne de connaître cette grande joie qu'il y a de connaître le Seigneur. Elle est incomparable, cette joie. Elle est insurpassable. Il n'y a pas d'autre joie à mettre en parallèle avec celle-là. La joie de connaître celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Cette joie, mais l'apôtre la montre d'une façon touchante, émouvante, quand il est en présence d'Agrippa et de sa sœur Bérénice. Quand il peut dire plus à Dieu que vous tous, qui n'avez que l'éclat de l'extérieur, que vous soyez comme moi, hormis ces liens, que vous soyez comme moi, que vous connaissiez la félicité qui est la mienne d'appartenir à un sauveur qui est mort pour mes péchés était ressuscité pour ma justification. Puissions-nous connaître cette félicité. Puissions-nous connaître ce bonheur incomparable. Puissions-nous connaître cette joie de l'Éternel, cette joie dans le Seigneur. Puissions-nous tous dire, je la connais, cette joie excellente que ton esprit, Jésus, met dans un cœur. C'est le vœu sincère, c'est le vœu chaleureux que tous ensemble nous exprimons ici à l'endroit de quelqu'un, peut-être d'un jeune, peut-être d'un moins jeune, de quelqu'un qui ne connaît pas encore le bonheur incomparable qu'il y a d'appartenir au Seigneur Jésus pour le temps et pour l'éternité.